Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Bertrand Penché, député de la Meuse, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Bertrand Penché, on est à 6 mois de l'élection présidentielle, on connaît les noms des candidats de gauche, le candidat de la droite sera connu en décembre, il y a l'hypothèse Zemmour et Emmanuel Macron qui devrait se représenter sans surprise. Quels sont les enjeux pour vous de cette élection présidentielle ?
Il y a plusieurs enjeux. D'abord, il est vraiment important que le futur président de la République puisse incarner une vision et un projet pour notre pays. Et la vision et le projet, c'est pas une accumulation de petites phrases, de commentaires de l'actualité ou de surfer sur les faits divers, ce qu'on voit bien actuellement. Président de la République, il a de par nos institutions vocation à rassembler et rassembler, c'est-à-dire incarner un cadre de dialogue. On voit bien que cette France est particulièrement fragmentée. Et puis ensuite, traiter les grands sujets qui concernent la vie de tous les jours de nos concitoyens. Comment ne pas être frappé par la grande différence entre les élections législatives qui viennent de s'achever en Allemagne ces dernières semaines et la préparation des élections présidentielles dans notre pays, où on a l'impression que, à part la sécurité, l'immigration et la sécurité, on ne traite d'aucun sujet particulièrement important. Je tire votre attention sur le fait que l'Allemagne, premier pays d'immigration d'Europe, a évidemment traité les questions d'immigration, mais dans le débat législatif en Allemagne, puis on a parlé réellement de la vie de tous les jours, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, les transports, le logement, les difficultés pour les jeunes à se former, la question du chômage, la question aussi du réchauffement climatique, la question de la justice sociale. Eh bien, moi j'attends que le prochain président de la République puisse nous proposer un projet de développement enfin humain, c'est-à-dire un développement évidemment économique. On voit bien que notre économie a besoin évidemment de se moderniser. Un développement social. Il y a vraiment une question de justice, d'injustice sociale dans notre pays à travers des riches qui sont de plus en plus riches en termes de patrimoine, des pauvres de plus en plus pauvres. Et puis, bien entendu, la grande question environnementale. On est en plein en ce moment dans la COP 26. Il faut aussi que nous puissions proposer sur le plan national, mais aussi la France par rapport à l'Europe, l'Europe par rapport au monde, un grand projet sur le plan environnemental, de façon à pouvoir éviter les catastrophes qui sont maintenant devant nous. Donc j'attends vraiment que ce président de la République puisse incarner ce projet et bien entendu que nos concitoyens s'engagent de façon à pouvoir donner leur avis et faire en sorte que demain, quand on aura un nouveau président de la République et une nouvelle élection législative, nos concitoyens puissent se dire on adhère, on refait à nouveau confiance, il y a un vrai problème de confiance, et puis on va, je l'espère, retravailler sur le cadre démocratique, on va savoir réellement comment on va pouvoir continuellement donner notre avis, être consulté pour que les décisions de demain soient vraiment des décisions soutenues par tous et par toutes. On voit bien qu'on en est loin pour le moment, je vous remercie vraiment vous-même d'engager des débats de ce type, de façon à ce que vraiment les grands sujets de société soient posés dans notre pays.
Bertrand Penché, en vous écoutant, je me remémore les grands débats qu'il y a eu après la crise des Gilets jaunes. Ça a été un moment où on a entendu les Français parler de tous les sujets. Je me rappelle en particulier du thème des déserts médicaux. Il faut que ces sujets reviennent, par exemple, la difficulté qu'il y a pour les Français à se soigner, à trouver un dermatologue quand on habite en zone rurale ou en région parisienne, par exemple.
Oui, évidemment. Évidemment, moi je rappelle quand même que la crise des gilets jaunes a été une manifestation inconnue dans notre pays, dans notre pays, à travers ces manifestations très importantes. Je me rappelle que beaucoup de sujets ont été mis à l'ordre du jour, et je rappelle que malheureusement, faute d'un cadre pour structurer ce débat, eh bien ce débat a été trop considéré comme un grand blabla, c'est-à-dire avec des Françaises et des Français qui sont exprimés. Mais qu'est-ce qu'on a fait réellement de tout ça? Moi, à l'époque, j'avais d'ailleurs formulé le vœu qu'on s'engage dans un débat structuré, que les principales idées remontent au plan national, soient à niveau débattu avec la société civile organisée, à travers toutes les grandes organisations nationales, à travers le Parlement, pour en faire des propositions précises qui puissent être listées et qui puissent être contrôlées. Donc je regrette que ce débat n'ait pas donné lieu à des décisions qui étaient attendues par l'ensemble de nos concitoyens, et sans doute un renouvellement de cadre démocratique, puisque dans ce pays où tous les pouvoirs sont concentrés, hélas, aux mains du président de la République, on aurait pu également, et c'était vraiment une demande des Gilets jaunes, s'engager dans une transformation de la démocratie à travers quelques idées simples, le référendum à choix multiples par exemple, le choc de décentralisation, le rééquilibrage du Parlement, et une façon dont on pouvait faire en sorte que, à partir du moment où des thématiques étaient portées par nos concitoyens, eh bien ces thématiques soient réellement traitées au plan national. Ça n'a pas été le cas. Moi, j'appelle vraiment de mes voeux un grand choc démocratique, parce que si on ne règle pas le cadre, c'est-à-dire la façon dont on va réellement demain travailler tous ensemble, mobiliser toutes celles et ceux qui sont concernés par les grandes préoccupations de tous les jours, eh bien on va encore arriver à des décisions qui sont mal comprises, qui ont été mal structurées, qui n'ont pas fait l'objectif d'analyse d'impact. Et il faut vraiment que ces sujets-là soient traités. Vous avez parlé évidemment de la question sanitaire qui a été révélé pendant cette grande crise sanitaire. C'est un vrai sujet. Moi, j'aimerais bien que ça fasse partie des vrais sujets qui soient traités. Comment faire revenir les médecins dans les zones où il n'y a pas de médecins? C'est notamment la question de la formation de nos étudiants. Formation coûte très cher. Je pense que on est en droit maintenant, par exemple, de demander à ce que des étudiants qui sortent de nos facs de médecine, eh bien, s'engagent à redonner les premières années de leur vie pour servir les territoires qui les ont formés. Et puis, il y a aussi la rémunération des personnels dans nos hôpitaux. Le Ségur de la santé a été une petite avancée. C'est bien. On voit bien qu'il faut aller plus loin, parce que on est épuisé dans les hôpitaux. 15 à 20% d'absentéisme, notamment de manque d'infirmières et d'infirmiers, sont des services qui sont fermés. C'est pas normal que ce grand pays, ce pays aussi développé qu'est la France, arrive dans ces situations. Il y a des actions précises à mettre en œuvre. Évidemment, il faut s'en emparer à travers le débat des élections présidentielles.
Alors Bertrand Opanché, à plusieurs reprises, vous avez dénoncé l'incapacité du gouvernement à dialoguer avec l'opposition. C'est un reproche qu'on a souvent entendu avec les prédécesseurs d'Emmanuel Macron également. C'est un regret pour vous que l'opposition ne soit pas assez écoutée par les pouvoirs en place. Mais finalement, est-ce que ça n'est pas consubstantiel à la Ve République, quel que soit le pouvoir ?
Oui, mais bien entendu, c'est un problème consubstantiel à la Ve République, avec cette concentration de tous les pouvoirs aux mains d'une même personne qui est le président de la République. Ce qui fait que bien, le président de la République décide malheureusement de tout, y compris dans les détails. Face à cette supposée urgence de prendre des décisions tout de suite, eh bien, le président de la République, quel que soit le président de la République, ne prend pas le temps d'associer évidemment le Parlement. Ou bien quand on est dans quand on est dans la majorité, on est au garde à vous. Quand on est l'opposition, cause toujours tu m'intéresses. On n'associe pas le Parlement, ce qui fait que au lieu de construire de l'intelligence collective en faisant en sorte de travailler avec toutes les personnes de bon sens, eh bien on radicalise les gens dans l'opposition et puis on donne une image de députés de la majorité qui sont aux ordres. Alors j'ajoute d'ailleurs que on pourrait faire la même critique de l'absence de dialogue constructif entre le président de la République et le Parlement, que l'absence de dialogue constructif avec les territoires, une absence de décentralisation, voire les représentants de la société civile, c'est-à-dire les grandes organisations syndicales, patronales, associatives, eh bien, nos institutions ne sont pas conçues, hélas, pour discuter, même si on pourrait le faire, avec l'ensemble de ces organisations. Eh bien, il arrive ce qu'il arrive, c'est-à-dire que on ne génère que des oppositions stériles. Moi, je pense qu'il faut un réel choc démocratique dans notre pays, et le choc démocratique, il est triple. Il faut évidemment rééquilibrer les pouvoirs entre le président de la République et de l'Assemblée nationale, et pour ça, il faut réintroduire une forte dose de proportionnel, c'est-à-dire faire en sorte que le président de la République demain n'ait plus une majorité qui soit à ses ordres, et par conséquent obliger tous les grandes formations politiques ou les groupes à l'Assemblée nationale à travailler ensemble. Et on voit bien que dans des tas de domaines, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas travailler ensemble. Il pourrait y avoir beaucoup plus de consensus que d'opposition. Il faut un choc de décentralisation parce qu'on voit bien que il y a des tas de décisions qui, comme dans tous les pays qui nous entourent, devraient être traitées sur les territoires. Et puis aussi, il faut un choc d'écoute, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'à partir d'un certain nombre de pétitions, de signatures, eh bien on puisse mettre à débattre tel ou tel sujet qui concerne la vie de nos concitoyens, eh bien les mettre à débattre à l'Assemblée nationale. Il faut pouvoir aussi, par exemple, engager des référendums à choix multiples, c'est-à-dire on pose un grand sujet de société, eh bien on interroge nos concitoyens sur les options qui pourraient être mises en œuvre. C'est pas répondre oui ou non, sinon c'est un référendum qui répond qu'à des questions simples par des réponses simples. On voit que les sujets sont plus complexes. Et puis moi je pense qu'il faut vraiment que tous les textes législatifs ou réglementaires, toutes les décisions qui devraient être prises demain, eh bien puissent être prises à partir d'une vraie analyse d'impact et une vraie concertation. Et il faudrait, en tout cas c'est une de mes propositions, il faudrait faire en sorte que on ait un organisme indépendant en charge des analyses d'impact qui puisse analyser les propositions législatives ou réglementaires et puis autoriser que ces solutions soient débattues si elles ont bien été concertées et si elles ont fait l'objectif d'une analyse d'impact, ou bien qu'elles soient renvoyées à des études ultérieures. C'est ce qui se passe dans les pays d'Europe du Nord, notamment. C'est ce qui se passe aussi au Parlement européen. Et on voit que avec ces ensembles de mesures, ces propositions de bon sens, eh bien on pourrait recréer de l'intelligence collective et faire en sorte de redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens.
Bertrand Pancher, votre groupe à l'Assemblée s'appelle Liberté et Territoire. Vous nous avez dit qu'il y avait besoin de décentralisation. Les régions, les départements, les agglomérations devraient avoir davantage de compétences. Comment vous la voyez, cette décentralisation ?
Bah, tout ce qui est régalien, c'est-à-dire réellement autorité de l'État, défense, justice, grande réglementation économique, tout ça, c'est évidemment des décisions à prendre par l'État. Mais dans des tas d'autres domaines, il faut faire en sorte que ça soit les territoires qui décident directement. C'est ce qui se passe, je le rappelle, dans tous les pays qui nous entourent. Pourquoi Angela Merkel a été toujours beaucoup plus populaire dans la crise sanitaire qu'Emmanuel Macron? C'est pas parce que Angela Merkel était plus intelligente qu'Emmanuel Macron. C'est parce qu'elle était obligée chaque fois qu'elle prenait des décisions, notamment pendant la crise sanitaire, de concerter, trouver des consensus avec les régions. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, la santé est complètement décentralisée. Et comme c'est des compétences régionales, eh bien, les décisions qui sont prises en même temps, en prenant le pouls des territoires. Moi, je réclame, par exemple, que toute la santé soit décentralisée auprès des régions, le transfert des agences régionales d'hospitalisation, le fait que les directeurs d'hôpitaux soient nommés par les présidents des conseils régionaux et qu'on y associe les élus locaux. Je réclame par exemple que toutes les politiques de logement soient décentralisées. Pourquoi on ne rénove pas suffisamment de logements dans notre pays, en France ? Il faudrait en rénover 7 à 800 000 par an pour rentrer dans le cadre de nos objectifs de diminution des gaz à effet de serre, le logement étant un poste les plus importants en termes de rejet de gaz à effet de serre. En plus, ça crée de l'emploi et c'est une question quotidienne pour nos concitoyens. Bah, c'est tout simplement parce que l'État a mis en œuvre des tas de dispositifs au plan national. Il y a des crédits d'impôt, il y a des certificats d'économie d'énergie, il y a tous les plans, les opérations de rénovation urbaine. Enfin, il y a plein de stratégies. Les régions ont également leur stratégie, les départements ont leur stratégie. Et finalement, il y a tellement d'outils qui sont actuellement en place que c'est incompréhensible pour nos concitoyens, qu'on ne suit pas la mise en œuvre de ces outils, qu'à partir du moment où quelqu'un rénove son logement, de toute façon, il y a une déréglementation qui change. Et les gens n'y comprennent plus rien. Je réclame, par exemple, que le logement soit décentralisé. Je réclame également qu'on puisse faire des expérimentations en termes de police et de gendarmerie. Moi, je n'oublie pas que c'est le maréchal Pétain qui a nationalisé la police dans tous les pays qui nous entourent. Évidemment, la police, gendarmerie, bah, c'est sous le contrôle, évidemment, l'autorité des procureurs de la République. C'est très, très clair. Mais l'organisation, c'est-à-dire les résultats, les priorités locales, eh bien, elles sont définies par les élus locaux avec les populations concernées. Au moins, on peut rendre des comptes, on peut retravailler sur des objectifs, et vous verriez que tout ça serait beaucoup plus efficace que de lutter en permanence contre des tas dans le cadre de tas de priorités qui passent leur temps à changer. Il y a également les politiques en matière de transport. Je pense aussi qu'il faut rentrer dans le détail des politiques en matière d'éducation. Moi, je trouve que par exemple, les principaux de collège, les proviseurs de lycée, eh bien, devraient être nommés mais à la fois par l'État, mais aussi par les élus locaux qui mettent des moyens pour renforcer les politiques éducatives. Et vous voyez que si nous faisions tout ça, eh bien ces politiques seraient beaucoup plus efficaces sur le plan territorial. Nos concitoyens, par le biais des élus locaux, diraient « bah écoutez, on sait exactement ce qu'on fait, on comprend ou on comprend pas, mais on s'engage davantage », et tout ça serait beaucoup plus clair. On a vraiment besoin d'un grand choc de décentralisation dans notre pays.
Merci Bertrand Penché. Je rappelle que vous êtes député de la Meuse, président du groupe Libertés et Territoires à l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir et merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.